Chapitre 6. Ce qui arriva pendant que la compagnie était à déjeuner, et quelques idées concernant l'éducation des filles. La compagnie rapporta le lendemain matin les mêmes dispositions favorables dans lesquelles elle s'était séparée le soir précédent. Mais le pauvre Jones était tout à fait désespéré, car Partridge venait de l'informer que Mrs. Fitzpatrick avait quitté son logement et qu'il n'avait pu apprendre où elle était allée. Cette nouvelle l'affligea extrêmement, et son maintien ainsi que sa conduite, en dépit de tous ses efforts pour suivre la conversation, trahissait ses désirs et indiquait manifestement le désordre de son esprit. L'entretien roula comme la veille sur l'amour, et M. Nightingale professa de nouveau à ce sujet beaucoup de ces sentiments, vifs et désintéressés, que les hommes raisonnables nomment romanesques, mais que les femmes raisonnables jugent plus favorablement. Mrs. Miller, car ainsi s'appelait la maîtresse de la maison, approuva hautement ses sentiments. Mais quand il en appela à Miss Nancy, elle se contenta de lui répondre que celui qui avait le moins parlé lui paraissait le plus capable de bien juger. Ce sentiment était évidemment adressé à Jones, que nous eussions été fâchés qu'il l'eût laissé passer sans y faire attention. Aussi fit-il à Miss Nancy une réponse extrêmement polie, qu'il termina en insinuant que le silence qu'elle avait gardé elle-même l'exposait à un soupçon du même genre. Et en effet, elle n'avait presque pas ouvert la bouche le matin ni la veille au soir. « Je suis charmée, Nancy, dit Mrs. Miller, que monsieur ait fait cette observation. Je vous assure que je suis presque de son avis. Que pouvez-vous donc avoir, mon enfant? Je n'ai jamais vu un tel changement. Qu'est donc devenue votre gaieté? Croiriez-vous, monsieur, que j'avais l'habitude de l'appeler ma petite babillarde. Elle n'a pas proféré 20 paroles de la semaine. » La conversation fut interrompue ici par l'arrivée d'une servante qui tenait un paquet dans ses mains. Il m'a, dit-elle, été remis par un commissionnaire pour M. Jones. Elle ajouta que le porteur était reparti sur le champ en disant qu'il n'y avait pas de réponse. Jones témoigna quelques surprises en cette occasion et assura que ce devait être une erreur. Mais la servante, persistant à dire que c'était bien là le nom qu'on lui avait dit, toutes les femmes désirèrent qu'on ouvrît le paquet sur le champ, ce qui fut exécuté avec le consentement de M. Jones par la petite Betsy, et le contenu du paquet se trouva être un domino, un masque et un billet de balle. Jones assura alors plus positivement que jamais que tout cela ne pouvait lui avoir été remis que par méprise. Mrs. Miller elle-même témoigna quelques doutes et dit qu'elle ne savait qu'en penser. Mais quand on demanda à M. Nightingale quelle était son opinion à cet égard, il en émit une très différente. « Tout ce que je peux conclure de cela, monsieur, dit-il, c'est que vous êtes un très heureux mortel, car je ne fais aucun doute que tout ceci ne vous soit envoyé par quelques dames que vous aurez le bonheur de rencontrer au bal. » Jones n'avait pas tout à fait assez de vanité pour entretenir une idée aussi flatteuse, et Mrs. Miller elle-même n'était pas totalement de l'avis de M. Nightingale, lorsque Miss Nancy, ayant déployé le domino, il en tomba une carte sur laquelle était écrit ce qui suit. « La puissante reine des fées vous envoie ici ses couleurs. Venez conquérir des trophées, mettez à profit ses faveurs. » Mrs. Miller et Miss Nancy se rangèrent alors toutes deux à l'avis de M. Nightingale. Et Jones lui-même fut presque tenté de partager leur opinion. Et comme Mrs. Fitzpatrick, il le croyait du moins, était la seule qui sut où il logeait, il commença à se flatter de quelque espérance, accueillit l'idée que ce message venait d'elle et devait le conduire à voir Sophie. Cette espérance était assurément très peu fondée, mais comme la conduite de Mrs. Fitzpatrick, en refusant de le voir malgré sa promesse, et en quittant son logement sans l'en avoir instruit avec quelque chose d'étrange et d'inconcevable, ne pouvait-il pas se flatter que cette dame, qu'on lui avait dépeinte comme d'un caractère extrêmement capricieux, avait le projet de lui rendre de cette manière bizarre un service qu'elle avait refusé de lui accorder par un moyen plus simple. À dire vrai, comme il était impossible de rien conclure de certain d'un incident si singulier et si extraordinaire, il avait la plus grande latitude pour en tirer tous les résultats qui flatteraient son imagination. Et comme il avait naturellement une extrême vivacité de caractère, il s'y livra entièrement dans cette circonstance et son imagination travailla si bien que les 1000 idées qu'elle lui suggéra se réunirent pour favoriser et entretenir l'espoir qu'il rencontrerait sa chère Sophie avant la fin du jour. Lecteur, si tu as quelque bienveillance pour moi, la plus belle preuve de reconnaissance que je puisse t'en donner, c'est de te souhaiter cette heureuse disposition de l'âme. Car, après avoir beaucoup lu et longtemps médité sur ce fameux sujet du bonheur qui a occupé tant de plumes célèbres, je suis très porté à le placer dans la possession de ce caractère qui nous met en quelque sorte hors de la portée des traits de la fortune et nous rend heureux sans le secours de ses faveurs. En effet, les sensations de plaisir qu'il nous donne sont beaucoup plus constantes et beaucoup plus vives que celles que nous procure cette aveugle déesse. La nature ayant sagement fait en sorte qu'il y eût toujours un peu de satiété et de langueur attachées à nos jouissances réelles, de peur qu'elles ne prissent sur nous assez d'empire pour nous dégoûter de toute poursuite ultérieure. Je ne fais aucune espèce de doute que, sous ce point de vue, nous ne puissions nous figurer celui qui espère devenir un jour chancelier, quoiqu'il ne fasse que d'entrer au barreau, l'archevêque futur qui use son premier abat, et le premier ministre à la queue d'une opposition, plus véritablement heureux que ceux qui sont investis de tout le pouvoir et des riches émoluments de ces augustes emplois. M. Jones s'étant donc décidé à aller au bal masqué le soir même, M. Nightingale lui proposa de l'y conduire. Il offrit en même temps des billets à Miss Nancy et à sa mère. Mais cette excellente femme ne voulut pas les accepter. Elle dit qu'elle ne concevait pas le mal que quelques personnes trouvaient au bal masqué, mais que des plaisirs aussi chers ne convenaient qu'à des personnes riches et de qualité, et non à de jeunes personnes qui étaient destinées à gagner leur vie et pouvaient tout au plus espérer d'épouser un bon marchand. « Un marchand ! » s'écria Nightingale. « Je vous prie de ne pas dépriser ma Nancy. Il n'y a pas un noble sur la terre qui ne soit au-dessous de son mérite. » « Oh, fille, Monsieur Nightingale, » répondit Mrs. Miller, « vous ne devriez pas remplir la tête de ma fille de pareilles idées. » « Mais si son bonheur voulait, » ajouta-t-elle avec un sourire, « qu'elle trouvât un gentilhomme qui eût votre généreuse façon de penser, j'espère qu'elle reconnaîtrait sa générosité d'une manière plus convenable qu'en nourrissant dans son âme le goût des plaisirs aussi chers que cela. Lorsque les jeunes personnes apportent de grandes fortunes, elles ont sans doute quelque droit à vouloir dépenser ce qui leur appartient. Et à ce sujet, j'ai entendu les hommes dire qu'ils faisaient souvent un meilleur marché en épousant une femme pauvre qu'une riche. Mais que mes filles épousent qui elles voudront, je tâcherai qu'elles fassent le bonheur de leur mari. Je désire donc qu'on ne me parle plus de bal masqué. Nancy est, j'en suis sûr, trop sage pour désirer d'y aller, car elle doit se rappeler que la tête lui tourne à presque pour y avoir été avec vous l'année dernière, et qu'il lui fallut un grand mois avant qu'elle pût reprendre sa raison et son aiguille. Quoiqu'un léger soupir échappé du sein de Nancy semblât annoncer quelque désapprobation secrète de ses sentiments, elle n'osa pas les contredire ouvertement, car avec toute la tendresse d'une mère, cette excellente femme en avait su conserver toute l'autorité, et comme son indulgence pour les désirs de son enfant n'avait d'autre borne que la crainte de nuire à leur santé ou à leur bonheur futur, elle ne souffrait jamais que ceux de ses ordres fondés sur un pareil motif fussent enfreints ou contestés. Et c'est ce que savait si bien le jeune homme qui logeait chez elle depuis 2 ans qu'il ne répliqua pas un mot. M. Nightingale, qui goûtait Jones davantage à chaque moment, l'engagea instamment à venir dîner le jour même avec lui à la taverne, où il offrit de le présenter à quelques-unes de ses connaissances. Mais Jones le pria de l'excuser, ses habits n'étant pas encore arrivés. S'il faut confesser la vérité, M. Jones était alors dans une situation qui se trouve être assez souvent celle de beaucoup de jeunes gens, accoutumés à faire une plus grande figure que lui. En un mot, il n'avait pas un sol dans sa poche. Situation beaucoup plus honorée parmi les anciens philosophes que parmi les sages modernes qui demeurent dans Lombard Street ou qui fréquentent le café de White. Et peut-être même le grand cas que ces philosophes font d'une poche vide est-il une des raisons de ce profond mépris qu'ils inspirent dans la sudite rue et dans le sudit café. Or, si l'ancienne opinion que les hommes pourraient vivre parfaitement bien avec la vertu seule est une erreur notoire, comme les sages modernes dont je viens de parler prétendent l'avoir découvert, je crains bien que quelques romanciers n'aient également avancé une proposition fausse en soutenant qu'un homme peut vivre d'amour. Car quelques repas délicieux que ce sentiment puisse procurer à quelques-uns de nos sens et de nos appétits, il est très certain que les autres n'en tirent aucun profit. Aussi, ceux qui ont placé une confiance trop étendue dans ces sortes d'écrivains ont-ils reconnu leur erreur quand il était trop tard, et ont éprouvé que l'amour n'était pas plus capable d'apaiser la faim qu'une rose de charmer l'oreille ou un violon de plaire à l'odorat. Nonobstant donc toutes les friandises que l'amour lui avait présentées, entre lesquelles on peut compter l'espérance de voir Sophie au bal, espérance dont il s'était voluptueusement nourri tout le jour, quelque mal fondée qu'elle pût être, le soir ne fut pas plutôt arrivé qu'il commença à sentir le besoin d'une nourriture plus solide. Partridge le découvrit par intuition et en prit occasion de parler directement du billet de banque. Mais lorsque sa proposition eut été rejetée avec dédain, il rassembla encore une fois tout son courage et en trouva assez pour parler de retourner chez M. Allworthy. « Partridge, s'écria Jones, vous ne pouvez voir mon sort sous un point de vue plus désespéré que je ne le vois moi-même. » Et je commence à me repentir vivement d'avoir souffert que vous quittassiez pour me suivre un lieu où vous étiez établi. J'insiste donc en ce moment pour que vous retourniez chez vous. Quant aux dépenses que vous avez faites et à la peine que vous avez prise si obligeamment pour moi, permettez-moi de vous en dédommager en vous priant de garder pour votre usage tous les habits que j'ai laissés chez vous. Je suis fâché de ne pouvoir pour le moment vous témoigner autrement ma reconnaissance. » Il prononça ces mots d'un ton si pathétique que Partridge, entre les défauts duquel on ne pouvait compter ni mauvais naturel ni dureté de cœur, se mit à fondre en larmes. « Pour l'amour du ciel, monsieur, dit-il, réfléchissez seulement, que pouvez-vous faire? Comment est-il possible que vous pensiez demeurer dans cette grande ville sans argent? Faites ce qu'il vous plaira, monsieur, allez où vous voudrez, je suis résolu de ne pas vous quitter. » « Mais je vous prie, monsieur, réfléchissez, je vous en supplie, monsieur, pour l'amour de vous-même. Prenez ce que je vous dis en considération, et je suis sûr que votre propre raison vous conseillera de retourner chez vous. » « Combien de fois encore faudra-t-il que je te répète, dit Jones, que je n'ai point de chez moi où je puisse retourner. Si j'avais le moindre espoir que la porte de M. Allworthy fût encore ouverte pour me recevoir, je n'aurais pas besoin que l'infortune me pressât de m'y rendre. » Crois que c'est là le seul motif qui peut m'empêcher de voler vers lui. Mais hélas, je suis à jamais banni de sa présence. Ses derniers mots furent « Oh, Partridge, ils retentissent encore à mes oreilles. » Ses derniers mots furent, en me donnant une somme d'argent, je ne sais pas à combien elle montait, mais elle était considérable, j'en suis sûr. Ses derniers mots furent « À dater d'aujourd'hui, je suis déterminé à n'avoir plus de relations avec vous, sous aucun prétexte. » Ici, la douleur ferma la bouche à Jones, et la surprise produisit un moment le même effet sur Partridge. Mais celui-ci recouvra bientôt l'usage de la parole, et après une courte préface, dans laquelle il protesta qu'il n'était pas curieux, il demanda à Jones ce qu'il entendait par une somme considérable, s'il ne savait pas à combien elle montait, et enfin ce qu'était devenu cet argent. Il reçut à cet égard tous les éclaircissements que Jones put lui donner, et recommençait déjà ses commentaires quand il fut interrompu par un message de M. Nightingale qui invitait son maître à venir le trouver dans son appartement. Quand les deux jeunes gens furent revêtus de leurs dominos pour le bal et que M. Nightingale eut donné l'ordre qu'on fît venir les chaises à porteurs, Jones se trouva dans une position fâcheuse qui pourra paraître très ridicule à beaucoup de mes lecteurs. Il ne savait comment se procurer un shilling. Mais si ces lecteurs veulent réfléchir un peu sur ce qu'ils ont éprouvé eux-mêmes par le manque de 1000 livres, ou peut-être de 10 ou de 20, pour exécuter un projet chéri, ils auront une idée juste de ce que M. Jones éprouva en cette occasion. Il s'adressa donc à Partridge pour se procurer cette somme, la première qu'il lui eût permis de lui avancer, et il espérait bien que ce serait la dernière que ce pauvre homme lui avancerait tant qu'il serait à son service. La vérité est que Partridge avait depuis quelque temps cessé toute offre de ce genre, soit qu'il désirât de voir le billet de banque entamé, soit qu'il espérât que la misère forcerait Jones à retourner chez lui, soit pour tout autre motif sur lequel je me garderais bien de me prononcer. Chapitre 7. Contenant tous les plaisirs d'un bal masqué. Voici nos cavaliers arrivés à ce temple fameux où préside Heidegger, le grand arbiter Deliciarum, le sublime grand prêtre du plaisir, qui, comme les autres prêtres du paganisme, oblige ses dévots sectateurs à reconnaître la prétendue présence de la divinité, quoique réellement il n'existe en ce lieu aucune divinité de cette nature. M. Nightingale, ayant fait un tour ou deux avec son compagnon, le quitta soudain pour se promener avec une femme en lui disant « Maintenant que vous êtes ici, monsieur, il faut que vous chassiez pour votre propre compte. » Jones commença à concevoir de fortes espérances que sa Sophie était présente, et ces espérances l'animèrent encore davantage que les lumières, la musique et la foule, quoique ce soit des antidotes assez puissants contre le spleen. Il accosta alors toutes les femmes qui, par l'air, la taille ou la stature, avaient quelque ressemblance avec Sophie. Il tâchait de leur dire à toutes quelque chose de piquant, à dessein de les engager à faire une réponse qui lui servit à reconnaître cette voix à laquelle il croyait impossible qu'il pût se méprendre. Quelques-unes lui répondirent, en lui faisant cette question d'une voix fausse et criarde, « Est-ce que vous me connaissez ?» Le plus grand nombre lui disait, « Je ne vous connais pas, monsieur, et rien de plus. » Quelques autres l'appelèrent impertinent. Celles-ci ne lui répondirent pas du tout. Celles-là, « En vérité, je ne connais pas votre voix, et je n'ai rien à vous dire. » Plusieurs, enfin, lui firent des réponses aussi obligeantes qu'il pouvait les désirer, mais ce n'était pas avec cette voix qu'il souhaitait si vivement d'entendre. Tandis qu'il causait avec une de ces dernières, qui était vêtue en bergère, une dame en domino vint à lui, et le frappant sur l'épaule, lui dit tout bas à l'oreille, « Si vous causez plus longtemps avec ce masque, j'en instruirai Miss Weston. » Jones n'eut pas plutôt entendu prononcer ce nom que, quittant la femme avec qui il était, il s'attacha à suivre la dame au domino, en la priant et la suppliant de lui montrer la personne qu'elle venait de nommer, si elle se trouvait alors dans la salle. Le masque marcha précipitamment sans rien dire jusqu'au bout du salon le plus éloigné, et là, au lieu de lui répondre, s'assit en disant qu'elle était fatiguée. Jones s'assit à côté d'elle et continua ses instances. Enfin, la dame lui répondit froidement « J'avais imaginé que M. Jones avait assez de discernement pour qu'aucun déguisement ne fût capable de lui cacher sa maîtresse. »« Elle est donc ici, madame ?» répliqua Jones avec quelque véhémence. « Taisez-vous, monsieur, interrompit sur le champ la dame, vous allez vous faire remarquer. Je vous proteste sur mon honneur que Miss Weston n'est pas ici. » Jones, se saisissant alors de la main du masque, se remit à le conjurer avec les instances les plus vives de lui apprendre où il pourrait trouver Sophie. Et voyant qu'il n'en pouvait obtenir aucune réponse positive, il lui reprocha, quoique avec douceur, de lui avoir manqué de parole le jour précédent, et finit par lui dire « Allez, ma belle reine des fées, je connais très bien votre majesté malgré le déguisement affecté de votre voix. Assurément, Mrs. Fitzpatrick, il est un peu cruel à vous de vous divertir à me tourmenter. » Le masque répondit, « Quoique vous m'ayez si bien deviné, je continuerai encore à vous parler du même son de voix, de peur d'être reconnu par d'autres. Croyez-vous, mon cher monsieur, que je prenne assez peu d'intérêt à ma cousine pour faciliter entre vous deux un rapprochement qui finirait infailliblement par causer sa ruine, aussi bien que la vôtre? Je vous assure d'ailleurs qu'elle n'est pas assez folle pour consentir à se perdre elle-même, si vous êtes assez son ennemi pour l'y encourager. » « Hélas, madame, dit Jones, vous connaissez bien peu mon cœur, en m'appelant l'ennemi de Sophie. Et cependant, vous en conviendrez, lui dit le masque, entraîner quelqu'un à sa ruine, n'est-ce pas agir en ennemi? Et quand vous vous perdez sciemment et avec certitude par la même action, n'est-ce pas moins une folie qu'un crime? Or, monsieur, ma cousine n'a rien en ce moment que ce que son père voudra bien lui donner, ce qui est extrêmement peu pour une personne de son rang. Vous connaissez M. Weston et votre propre situation. » Jones protesta qu'il n'avait aucun projet de cette nature sur Sophie, qu'il aimerait mieux souffrir la mort la plus violente que de sacrifier l'intérêt de celle qui lui était si chère à ses propres désirs. qu'il savait combien à tous égards il était indigne d'elle, que depuis longtemps il avait résolu de renoncer à l'orgueilleuse pensée d'y prétendre, mais que quelques accidents assez étranges lui avaient fait désirer de la revoir encore une fois, au moment même où il se promettait de prendre congé d'elle pour toujours. « Non, madame, ajouta-t-il, mon amour n'est pas de nature à chercher sa propre satisfaction aux dépens de ce qui est le plus cher à celle qui en est l'objet. Je sacrifierai tout à la possession de ma Sophie, excepté Sophie elle-même. » Quoique le lecteur n'ait pas probablement conçu jusqu'ici une très haute idée de la vertu de la dame masquée, et quoique par la suite elle puisse ne pas paraître mériter l'éloge d'avoir un des plus beaux caractères de son sexe, cependant, il est certain que ses sentiments généreux firent une vive impression sur elle et ajoutèrent beaucoup à l'affection qu'elle avait ci-devant conçue pour notre jeune héros. Après un silence de quelques minutes, la dame lui dit qu'elle considérait ses prétentions sur Sophie moins comme un acte de présomption que comme un acte d'imprudence. « Les jeunes gens, ajouta-t-elle, ne peuvent jamais avoir en ce cas de trop orgueilleuses pensées. J'aime l'ambition dans un jeune homme, et je voudrais que vous vous y livrassiez entièrement. Peut-être pourrez-vous réussir auprès de quelques personnes d'une fortune infiniment supérieure à la vôtre. Je dis plus, je suis convaincu qu'il y a des femmes. Mais, monsieur Jones, ne me regardez-vous pas comme une étrange créature, de donner ainsi des avis à un homme que je connais si peu, et de la conduite duquel j'ai si peu de raison d'être satisfaite. Jones s'empressa alors de se justifier, en lui disant qu'il espérait ne pas l'avoir offensé par ce qu'il avait dit de sa cousine. À quoi le masque répondit, « Connaissez-vous donc assez peu notre sexe pour imaginer que vous puissiez offenser davantage une femme qu'en l'entretenant de votre passion pour une autre? Si la reine des fées n'avait pas conçu meilleure opinion de votre galanterie, il n'est pas probable qu'elle vous eût donné rendez-vous au bal. » Jones n'avait jamais eu moins d'inclination pour une intrigue qu'en ce moment. Mais la galanterie envers les femmes entrait dans ses principes d'honneur, et il regardait comme un devoir aussi sacré pour lui d'accepter un cartel d'amour que tout autre cartel. J'ajoute que son amour pour Sophie lui rendait nécessaire d'être bien avec la dame, ne doutant pas que cette liaison ne lui servît à lui faire rencontrer l'objet de ses véritables affections. Il commençait donc à répondre assez vivement aux dernières paroles de la dame quand un masque sous l'habit d'une vieille femme vint les joindre. Ce masque était une de ces femmes qui ne vont dans les bals masqués que pour donner carrière à leur méchanceté, en disant à tous ceux qu'ils rencontrent des vérités dures et qui tâchent, comme on dit, de gâter autant de plaisir qu'elles le peuvent. Cette bonne dame, ayant donc remarqué Jones et sa compagne, qu'elle connaissait bien, en conférence particulière dans un coin du salon, imagina qu'elle ne trouverait pas ailleurs une plus belle occasion de satisfaire son animosité naturelle qu'en les interrompant. Elle les attaqua donc et ne tarda pas à les chasser de leur retraite. Ne se contentant pas de cela, elle les poursuivit partout où ils se réfugiaient pour l'éviter. Jusqu'à ce que M. Nightingale, qui s'aperçut de la détresse de son ami, fût enfin arrivé à son secours et eût forcé la vieille dame d'en aller tourmenter d'autres. Tandis que Jones et son masque se promenaient ensemble dans le salon pour tâcher d'échapper à la vieille qui les tourmentait, il observa que sa dame parlait à plusieurs masques qui passaient avec la même familiarité que s'ils avaient été à visage découvert. Il ne put s'empêcher de lui en témoigner sa surprise en lui disant « Il faut, madame, que vous ayez une sagacité prodigieuse pour distinguer ainsi les gens sous toutes les espèces de déguisements. » La dame lui répondit « Vous ne pouvez rien concevoir de plus insipide et de plus puéril qu'un bal masqué pour les gens de qualité, qui en général se connaissent aussi bien ici que s'ils se rencontraient dans une assemblée générale ou même dans un salon particulier. Aucune femme de condition n'y cause jamais avec ceux avec qui elle n'est pas liée. En un mot, on peut dire avec raison que presque tous les gens que vous voyez ici y viennent tuer le temps plus que partout ailleurs, et en sortent généralement plus fatigués que du plus long sermon. À dire vrai, je commence moi-même à éprouver la même fatigue, et pour peu que j'aie le don de deviner, vous ne vous y plaisez pas beaucoup davantage. Je crois véritablement que ce serait à moi une sorte de charité à exercer envers vous que de m'en aller chez moi. « Je ne connais qu'une charité capable d'égaler celle-là, lui dit Jones avec transport, ce serait de me permettre de vous y accompagner. »
Assurément, répondit la dame, vous avez une étrange opinion de moi, si vous vous imaginez qu'après une aussi légère connaissance, je vous recevrai chez moi à 7 heures de la nuit.
N'attribueriez-vous pas peut-être l'intérêt que je vous ai montré pour ma cousine à quelque autre motif? Avouez-le franchement. Cette entrevue ne vous semble-t-elle pas concertée? Ne la regardez-vous pas comme un véritable rendez-vous? Êtes-vous accoutumé, Monsieur Jones, à faire de ces conquêtes subites?
Je ne suis point accoutumé, madame, à faire des conquêtes aussi subites. Mais comme vous vous êtes emparé de mon cœur par surprise, le reste de ma personne est en droit de le suivre.
Ainsi, il faut que vous me pardonniez la résolution que je prends de vous accompagner partout où vous irez. Il prononça ces mots avec un ton si vif et un geste si animé que la dame, après le lui avoir reproché doucement, lui disant que leur familiarité pourrait être observée, ajouta qu'elle allait souper chez une personne de sa connaissance, où elle espérait bien qu'il ne la suivrait point. « Car autrement, continua-t-elle, je passerais pour une femme étrange. Quoiqu'à dire vrai, mon ami n'est pas de penchant à la pruderie. Cependant, j'espère que vous ne me suivrez pas. Sinon, je ne saurais plus en vérité que dire et que penser de vous. » La dame quitta le bal aussitôt après, et malgré la sévère défense qui lui en avait été faite, Jones voulut la suivre. Mais il se trouva réduit à la nécessité de résoudre le même problème que quelques heures auparavant. Je veux dire qu'il n'avait pas un shilling, et il n'avait pas là la ressource de l'emprunter comme il l'avait fait précédemment. Il prit donc hardiment le parti de courir après la voiture de la dame, malgré le concert de huées dont lui poursuivirent tous les porteurs de chaises présents, qui, fidèles à leurs intérêts, font de leur mieux pour décontenancer les gens un peu comme il faut, qui vont à pied. Heureusement, la foule qui attend ordinairement à la porte de l'opéra était trop occupée pour quitter son poste. Et comme l'heure avancée le mettait à l'abri de rencontrer dans les rues un grand nombre de gens de cette espèce, il continua sa course sans être molesté, dans un costume qui, à une autre heure, aurait certainement mis toute la populace à ses trousses. La dame fut conduite dans une rue non loin de Hanover Square. La porte de la maison s'ouvrit aussitôt, sa voiture y entra, et Jones, sans cérémonie, y entra en même temps. Les voilà tous deux réunis dans un salon très bien meublé et parfaitement échauffé. La dame, continuant à parler avec sa voix de bal, dit alors qu'elle était bien surprise de ne pas trouver son ami, qui sans doute avait absolument oublié le rendez-vous qu'elle lui avait donné. Après avoir témoigné beaucoup d'humeur, elle parut avoir quelque crainte de se trouver avec Jones et lui demanda ce que le monde penserait quand on saurait qu'ils étaient restés seuls ensemble, renfermés au milieu de la nuit. Mais au lieu de répondre directement à une question aussi importante, Jones pressa très vivement la dame de se démasquer. Et après l'avoir enfin obtenue, il vit paraître non Mrs. Fitzpatrick, mais Lady Bellaston elle-même. Je n'ennuierai pas les lecteurs des détails de leur conversation, qui roula sur des sujets très communs et très ordinaires, et dura depuis 2 heures jusqu'à 6 heures du matin. Il suffit d'en rapporter ce qui peut être essentiel à notre histoire, et particulièrement la promesse que lui fit la dame de faire tous ses efforts pour découvrir Sophie, et pour lui procurer sous peu de jours une entrevue avec elle, à condition qu'il en prendrait alors congé pour toujours. Quand ce point fut définitivement arrêté, et qu'ils furent convenus d'un second rendez-vous pour le soir dans le même lieu, ils se séparèrent. La dame retourna chez elle, et Jones à son auberge.